Lille, hein, domaine du Grand Prix de Montastru qu'on a suivi ensemble sur C'est ta radio. Bienvenue Yves.
Salut à tous.
On a également Aymeric.
Salut à toutes, salut à tous.
Aurélien.
Bonsoir à tous.
On a quelqu'un au bout du fil, Yves ?
Je crois oui.
Alors, qui avons-nous au bout du fil ?
Oui, bonsoir tout le monde.
Salut Ludo. Ça va démarrer par le rugby, ça veut dire ça.
Voilà, tout à fait.
Salut Ludo. Bon, le programme de cette émission, Yves.
Eh oui, les week-ends se suivent et se ressemblent pour l'équipe de France de rugby, malheureusement. Donc, on va démarrer par ça. Hein, la nouvelle défaite du 15 de France à domicile, cette fois, face au Pays de Galles. 20-13. Donc, on analysera ce match. Et puis le futur, quoi. Et puis, surtout l'Irlande qui se dirige peut-être vers le Grand Chelem, même si les matchs qui restent sont compliqués pour cette équipe.
Tu veux dire que t'as envie de parler des équipes qui gagnent un peu?
Oui, parce que là, l'équipe de France, ça commence à fatiguer, cette histoire. Et, donc, après la pub, on parlera aussi du choc, hein, de Ligue 1 qui avait eu hier soir. On rigole, le choc, parce que c'est vrai que ce choc a accouché d'une petite souris, hein, ce Monaco PSG. On dit choc évidemment parce que c'est deux équipes qui représentent la France en Champions League et qui ont plutôt été très bonnes d'ailleurs sur ces matchs de Champions League. Mais malheureusement, quand elles se retrouvent en Ligue 1, je sais pas ce que c'est peut-être de jouer le week-end, mais c'est jamais aussi bon. Et on finira enfin par les championnats du monde de ski nordique qui sont terminés. Mais ce week-end, avec quand même l'annonce de la retraite sportive de Jason Lamy-Chapuy. Et puis après, à 20h, Radio Vélo, l'équipe est là, après cette grande journée à Montastruc hier, fatigué, il y a encore les cernes, hein, Nico.
Oui, on va 4h10 de direct hier pour le Grand Prix de Montastruc qu'on a vécu ensemble et qu'on va refaire ensemble, et bien sûr, sur CETA Radio, justement, avec toute l'équipe, plusieurs invités. Et puis on parlera également avec Samuel Dumoulin, que tu connais peut-être, Yves, qui est professionnel de l'équipe oui. AG2R La Mondiale et qui hier a remporté une belle victoire en plus.
Allez, et ben ça sera à partir de 20h tout ça, et on va démarrer de suite par les choses qui fâchent comme d'habitude avec le rugby et cette équipe de France qui nous fait mal.
Yves.
Et ouais, une nouvelle défaite, hein, comme on l'a annoncé, face au Pays de Galles, 20-13, dans ce Stade de France qui commence à être fatigué, hein, qui a sifflé ses joueurs, son sélectionneur. Alors, comme d'habitude, on va dire, il n'y a pas que du mauvais, puisque c'est encore une défaite par une petite marge, toujours des défensivement quelque chose de correct. Mais malheureusement, on vient mourir toujours à 7 points, on vient mourir avec peu d'allant dans les offensives, et à force, on a l'impression de voir toujours les mêmes matchs, Ludo.
Oui, toujours les mêmes matchs. On perd peu à chaque fois. Mais bon, ce qui change pour une fois, peut-être les déclarations de Saint-André.
On va parler de ça. Ouais.
On va en parler, parce qu'il veut essayer de faire un effet électrochoc. Bon, on en reparlera après. Hein, mais toujours les mêmes.
En parlant d'électrochoc, juste, tant que je tiens Clermontois, vous lui avez fait quoi, votre ouvreur, la semaine dernière, là, parce que faut arrêter de les faire bouffer trop lourd avant les week-ends de match, hein, c'est pas possible.
Oui, disons que moi je vais encore remettre la faute à tout le staff de l'équipe de France, hein, parce que je sais pas, mais c'est même tous les joueurs qui sont comme ça. Ils sont merveilleux en club. Lopez, puisque c'est de lui, hein, dont on parle, il a fait de super matchs depuis le début de saison. Il arrive en équipe de France et il devient, il faut le dire, un pas terrible du tout. Il a encore raté son match dans les coups de pied, donc samedi dernier. Mais voilà, je sais pas, il y a un problème, je pense, moi, au niveau du staff. Parce que clairement, par exemple, on dit qu'il a trop la pression en équipe de France, et pourtant il a eu une pression phénoménale du côté du Munster. Et au Munster, par exemple, il vous met dès la première minute une transformation en coin, il la met sans difficulté. Il met un drop à 2 minutes de la mi-temps qui assomme carrément le Munster, et ils reviennent plus dans le match grâce à lui. Il avait fait un match superbe au Munster avec une pression quand même phénoménale, et en équipe de France il n'y arrive pas. Moi je pense faudrait remettre encore un petit peu en cause ce staff de l'équipe de France, parce qu'il n'y a pas que Lopez, il y a vraiment tous les joueurs, hein, tous les joueurs, les Toulonnais, les Clermontois, même les Toulousains, ils sont bons dans leur club, et puis là ils n'y arrivent pas quand ils arrivent en équipe de France.
Voilà, enfin, je suis d'accord avec toi, évidemment, hein, sur cette analyse, mais moi je parle toujours, voilà, c'est surtout sur le côté offensif, parce que défensivement, effectivement, l'équipe de France y est, et puis il y a quelque chose de psychologique, il y a un problème psychologique, parce qu'effectivement, quand on voit un buteur qui marque pas des pénalités qui sont largement à sa portée, ben du coup on est toujours derrière, on n'arrive jamais à passer devant, et psychologiquement d'être toujours derrière, ben c'est plus compliqué. Mais à un moment donné, les pénalités, je veux bien que ce soit toujours la faute à Saint-André, mais c'est vraiment, est-ce qu'il arrive à passer ce cas? Parce que on dit de pression, effectivement il a une pression énorme à Clermont, mais le maillot bleu, et c'est pareil dans tous les sports, je pense que c'est plus que ça. Et là il arrive pas, certainement pas, le PS à les mettre en confiance. Mais et y a là, moi je lui en veux aussi énormément sur l'en avant où il y a essai derrière du G, il y a pas une pression énorme dessus, il fait un avant de passe alors qu'il doit, enfin c'est sur un fauteuil qu'il doit le mettre ce ballon.
Ouais. C'est vrai. Ouais,
mais toutes ces erreurs là, effectivement, je pense que c'est très symptomatique d'un énorme manque de confiance dans ce groupe, parce que ce serait juste des mauvais rugbymen, déjà ils le seraient aussi en club, déjà pour commencer, s'ils étaient juste mauvais, et puis surtout ils seraient mauvais défenseurs aussi. Je veux dire, le fait qu'ils arrivent à rester organisés, qu'ils tiennent le coup physiquement, qu'ils s'échappent pas et que la défense soit efficace, mais que ça s'effondre sur les phases offensives, ça montre bien que les types ont pas confiance dans leur rugby, et c'est très problématique quoi. Ils n'arrivent pas à se lâcher, ils n'arrivent pas à envoyer, les buteurs tremblent des genoux, les offensives sont pas tranchantes, les mecs n'arrivent pas à se lâcher quoi.
Alors Aurélien.
Ouais, mais comme tu dis Aymeric, c'est une équipe qui manque cruellement de confiance. Elle nous offre, il faut le reconnaître, quand on regarde un match de l'équipe de France aujourd'hui, on s'ennuie. Offensivement, elle propose rien d'intéressant. Elle est quand même solide défensivement. C'est peut-être le seul côté positif qui peut ressortir de cette équipe. Mais aujourd'hui, elle manque cruellement de confiance. Il faut qu'elle engendre une victoire contre une grosse équipe, je pense, pour peut-être retrouver un petit peu de la dynamique et offrir des prestations.
Il faut la confiance.
Il faut une victoire avec la manière. La victoire, juste la victoire, on l'a vu contre l'Écosse, c'était une victoire moche et au final ça n'a rien donné quoi.
C'est vrai.
Il faut un petit peu de continuité. Moi je dirais plus qu'une victoire moche, il faudrait une petite continuité de victoire, parce que là ça fait très longtemps qu'on enchaîne des mauvais résultats et qu'on gagne au milieu une fois de temps en temps.
Il faudrait lancer une série, ouais.
Après, moi, la manière, ça fait très longtemps en équipe de France qu'on n'a pas vu de manière, hein. Puisque je vous rappelle, l'air Livremont n'a pas été extraordinaire, hein. Et l'air Laporte avant, avec de grands résultats, mais on peut pas dire que la manière, on en a parlé juste avant de démarrer, Emric, c'était pas extraordinaire. Mais par contre, il avait des gars sur qui se reposer.
La porte avant, mais la porte arrière après.
Non, la porte c'était différent, parce que là, c'était un choix. Le plan de jeu était fait comme ça, et les joueurs avaient un plan de jeu clair qu'ils appliquaient. Après, le plan de jeu était pas spectaculaire, mais les mecs savaient ce qu'ils avaient à faire, le faisaient correctement et le faisaient avec efficacité et avaient confiance dans ce qu'ils faisaient.
La porte avec Toulon, hein, c'est le même jeu qu'il avait mis en place avec le 15 de France. Simple, efficace, précis, et ça gagne.
Voilà, occupation du terrain, on récupère haut, et voilà. Et c'est vrai qu'on s'emmerdait aussi avec la porte. Mais il avait des joueurs il choisissait des joueurs pour sa tactique des trails, Damien Trail qui avait un coup de pied de mammouth, et ça occupait le terrain. Après, moi je trouve que dans cette équipe de France, et là c'est là où effectivement moi aussi je critique Saint-André, c'est que il n'y a pas de leader. C'est qu'à un moment donné, quand on est en difficulté, c'est bien l'entraîneur. Mais sur le terrain, quels sont les leaders? Où sont les gens qui ont 50, 60 sélections? Il n'y a que du sautoir. Et moi, je veux bien, moi, j'adore du sautoir en tant que joueur. Mais moi, je le trouve très peu charismatique. Je vois pas que ce soit un très grand meneur d'homme. Et moi, je connais, on a un déficit de grande gueule, quoi.
C'est vrai qu'il manque des caractères forts, comme il y avait aux époques précédentes, quoi.
Lido.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Il va induire sautoir, très grand joueur, mais c'est vrai qu'au niveau capitaine, moi aussi, il m'a jamais convaincu. Et un qui a quand même 50, 60 sélections. Alors, on va dire que je reparle encore des Clermontois. Il est encore jeune, c'est Morgan Parra.
C'est un bon joueur.
Et saison finie pour lui, sûrement, avec,
Et voilà, tout à fait. Et voilà, 10 semaines d'arrêt. Mais bon, ça c'est le staff de Clermont qui nous annonce 10 semaines d'arrêt. On a su ça aujourd'hui. Absent pour le quart de Coupe d'Europe. Mais après, je mettrai un petit doigt sur sa présence pour la demi-finale de Coupe d'Europe. On annonce 10 semaines d'arrêt, mais généralement, il récupère plus vite que prévu. Par exemple, Rougerie, qui était prévu son retour fin mars, début avril, il est déjà dans le groupe et on est début mars, il est dans le groupe pour le match contre Bayonne. Alors je sais pas, un peu d'intox et tout ça. Et puis au niveau blessé équipe de France, il y a aussi Fofana qui est blessé 3 semaines. Donc là vraiment les coups durs s'enchaînent pour le 15 de France, sachant que le deuxième centre, Lamera, est aussi blessé. Enfin toujours des tuiles pour cette équipe de France qui, en plus de pas être bonne, a pas de bol.
Et voilà, on va venir à ce que tu disais, Ludo, toi. Par contre, la petite différence, c'est l'après-match. C'est l'après-match où Saint-André pour la première fois en 3 ans, déjà la semaine...
Il a dévissé complètement.
Voilà,
là.
Déjà il y a 15 jours, je l'avais trouvé un petit peu critique par rapport à d'habitude sur ses joueurs. Et puis là, ça a été, je pense que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Après le match, et samedi soir, et surtout dimanche matin, où il a complètement lâché ses joueurs en disant que c'était pas des joueurs... Il n'y avait pas de champions, il n'y avait que des starlettes, les coups classiques, avec les photos sur les réseaux sociaux, on passe le temps à faire des pubs et voilà, quand il n'y a plus de ressorts techniques et tactiques, et bien on va chercher les joueurs dans l'orgueil, mais est-ce que ça monnaie, c'est pas un symptôme de faiblesse, je sais pas, est-ce que c'est pas déjà trop tard de toute façon, Ludo?
Ouais, il veut créer une réaction d'orgueil chez ses joueurs, alors c'est pas le premier sélectionneur à agir de la sorte, hein. Oui. Yves Rolland l'avait fait, Berbizier, plus loin encore, par exemple Jacques Fourroux avait utilisé la même méthode. Et moi, je pense que déjà, c'est un peu malvenu de sa part. Hein. Celui qui devrait se remettre en cause, alors bon, c'est quand même lui et son staff. Parce qu'on parle de Saint-André, mais il y a tout un staff derrière. La Gisquet qui s'occupe des trois quarts, ils sont nombreux. Hein. La Gisquet pour les trois quarts, Bru pour les avants, Telet pour les buteurs, et on va dire Blanco pour les banquets d'après-match. Voilà, donc d'autres anciens sélectionneurs avaient agi de la sorte. Mais ils avaient la légitimité, au moins, pour le faire, parce qu'ils ont eu un palmarès, ils ont eu des victoires. Voilà, et puis ils avaient mis un jeu en place avec Saint-André. Il n'y a pas de victoire, on n'a jamais gagné contre une grande nation à l'extérieur. Le palmarès, je vais le rappeler, un 2x4e du tournoi, une fois dernier, donc c'est pas terrible. Et cette année, on est reparti pour être dernier ou avant-dernier. Ouais. Et puis pareil, hein, pas de jeu mis en place. Hein, au niveau cohésion dans le jeu, c'est absolument... C'est le néant, voilà, tout simplement. Et je pense que cette équipe, les mêmes joueurs, avec un bon coach, Tilly, Bagnez, Galtier, ou même, par exemple, le coach de l'Irlande, la Joe Smith, eh ben, je pense qu'on aurait des victoires et on verrait quand même du beau jeu avec exactement les mêmes joueurs.
Mais après, c'est bizarre parce qu'il y a quand même, de la compétence dans ce staff. Tu parlais d'un Yannick Bru, par exemple. Faut pas oublier que c'est quand même lui qui a forgé le pack de Toulouse du milieu des années 2000, qui était une machine à détruire. Voilà. Et là, bon, le pack français démérite pas, mais on retrouve pas
de la Gisquet, hein.
Ouais, mais même le pack français par rapport à ce qu'avait réussi à construire Bru à Toulouse. À la limite, c'est peut-être le secteur qui marche le mieux, mais c'est pas monstrueux non plus, quoi.
Non, c'est pas suffisant. En tout cas, comme tu le dis, c'est catastrophique. Le bilan de Saint-André, c'est le seul sélectionneur, des quatre derniers sélectionneurs, qui a moins de victoires que des défaites. Hein.
Même Lièvremont, qui s'était fait étrier complètement, je crois, avait un meilleur bilan que ça.
Ah oui, largement. Lièvremont, sur ses 4 ans, c'est 27 victoires et 18 défaites. Et là, avec Saint-André, on est qu'à 14 petites victoires pour 19 défaites, c'est incroyable.
Mais le gros problème, comme tu disais là, Yves, c'est qu'il manque vraiment des leaders dans cette équipe, parce que je pense que en 2011 à la Coupe du Monde, ouais. Je pense qu'on ne serait pas allé loin non plus si on n'avait pas eu de leader dans l'équipe.
Il y avait Rougerie,
des Bonner, des Nallet qui ont tiré le groupe vers le haut, et là c'est ce qui manque actuellement dans cette équipe de France.
Ludo.
Ouais, et on parlait de Lièvremont, c'est quand même, bon, une finale de Coupe du Monde. Hein,
cette année, il n'y en a pas encore disputé.
Voilà, et si on parle tournoi à destination, c'est quand même un grand chelem en 2010, et à la charnière, et c'est une charnière que Saint-André aurait dû faire encore jouer, parce qu'à l'époque, ils étaient jeunes, ils n'avaient pas beaucoup d'expérience, ils ont réussi à faire le grand chelem, c'était des demi de mêlée Morgan Parra, et demi d'ouverture, François Trinduc. On aurait dû les laisser s'installer, et puis rajouter, comme on le dit dans l'émission depuis des semaines, par petites touches, par exemple, un demi de mêlée remplaçant qui est Loose-Bord de Toulon, et à la rigueur Camille Lopez. Et Camille Lopez rajouté à François Trinduc, sachant que François Trinduc c'est le taulier à ce poste, il aurait moins de pression et ça se trouve il réussirait ses matchs. Mais Philippe Saint-André a tout raté depuis le début.
Oui, parce que pour moi il y a eu trop de changements. Et résultat des courses, attention maintenant, parce que moi je pense qu'il va y avoir un retour de certains.
Hein. Enfin, ouais, 80 joueurs, utilisés depuis que Saint-André est en place. On peut pas, joueurs peuvent pas avoir d'automatisme avec ça, quoi.
Et des joueurs, surtout, qu'il a mis sur le côté dernièrement, qui déméritent pas, mais qui considèrent trop. Alors, la vieillesse, je sais pas quel âge c'est, mais attention à Rougerie qui peut faire une bonne fin de saison avec Clermont, Trinduc, qui va être rétabli, c'est des joueurs qui, je pense, qui vont disputer la Coupe du Monde. Hein.
Les vieux, il va y avoir quelques vieux qui vont faire un tour en force. Ça fera pas de mal, je pense.
Alors, Harry Nordoki, les Toulousains, Harry Nordoki qui est impressionnant avec Toulouse. Là,
même s'il est moins flamboyant qu'au début de saison, mais il y a de l'expérience. Et c'est vrai que ces mecs-là, en plus de leur qualité purement rugbystique, ce niveau-là, ils le connaissent. Ouais. Donc c'est.
Moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout ces jeunes là, parce qu'on s'est commencé, on peut brûler des ailes, hein, parce que Camille Lopez, s'il voit que traîne, voilà, qui part, imaginons, il participe à la Coupe du Monde, traîne du crevien et tout ça, psychologiquement, encore une fois, c'est compliqué, hein. Mais bon, le haut niveau veut ça, et malheureusement c'est comme ça que ça arrive de temps en temps.
Et depuis l'ère Saint-André, l'équipe de France, clairement, elle est plus une grande nation du mondial du rugby.
Mais le problème, c'est qu'on sait jamais qui c'est qui va jouer.
Parce ouais, que comme disait Ludo, 80 joueurs, c'est juste pas possible.
On a tellement changé. Puis un joueur, il fait un bon match, on le félicite, mais s'il fait un mauvais match, ben après on l'enlève. Enfin, c'est, il y a aucune continuité. Et pour installer un jeu, notamment offensif, ce qui est quand même plus compliqué à faire, défendre, c'est très bien. On est costaud, on est discipliné. C'est finalement un travail. Allez, le plus facile à faire, mais quand on veut faire un jeu offensif, et c'est la partie de l'attaque en possession de balle, c'est ce qui demande le plus de travail, le plus de coordination, le plus d'habitude entre joueurs. Et là, si on change tout le temps, Ludo.
Ouais, et puis d'après les paroles de Saint-André, là, il va encore tout changer pour le prochain match en Italie. Donc grosse peur, pour Camille Lopez, mais on va mettre qui à la place. Grosse peur pour le numéro 8 Damien Chouli, mais on va mettre qui à la place. Enfin, on sait plus rien, quoi. C'est le fou.
Et ouais, alors en plus, il y a des blessés. Donc du coup, je sais pas. je sais pas. Alors ça c'est pas.
Parlons Irlande. Voilà. Parlons équipe d'Irlande.
Voilà, exactement. Parlons Irlande, parce que le gros match c'était dimanche à 4h, en concurrence avec le Grand Prix de Montastruc. C'était Irlande-Angleterre, et on a vu un gros match, hein. On a vu une équipe d'Irlande maîtriser son sujet pendant une heure, et comme par hasard, c'est-à-dire jusqu'à la sortie de Sexton, hein. Il menait 19-3 à la 60e, et à partir de la sortie de Sexton, ben ça a été plus compliqué. L'Angleterre est revenue dans le match, mais bon, l'Irlande a maîtrisé et a fini par gagner 19-9, Ludo.
Ouais, et puis bon, l'Irlande qui prouve qu'elle est la meilleure nation européenne du moment. Je continue mes stats, hein, on rajoute un match à chaque fois, mais depuis l'année dernière, début donc 2014, c'est 12 matchs, 11 victoires, donc ça prouve le talent de cette équipe. Discipline, dominateur dans les airs, en mêlée, dans les rucks, ils ont un bon buteur, Sexton justement, un jeu précis et efficace. Tout ça sous la houlette d'un grand coach, hein, Joe Smith, qui a déjà fait ses preuves. Voilà, c'est tout le contraire de l'équipe de France, hein. Joe Smith, depuis les 4 dernières années, c'est un titre par année. 2010, champion de France avec Clermont. 2011, une Coupe d'Europe avec le Leinster. Il remet ça en 2012, la Coupe d'Europe. Et 2013, il gagne le championnat avec le Leinster. Et 2014, c'est vainqueur du tournoi destination avec l'Irlande. Donc vraiment un grand coach. On avait des doutes quand même au début sur cette équipe d'Irlande. On disait, on les trouvait un peu poussifs et tout ça.
Ben, ils ont perdu leur paire de centre historique.
O'Driscoll, ça n'avait pas été évident, mais ils ont trouvé des jeunes pour à mettre en place. Et puis,
Sexton était derrière, Sexton était dans l'antichambre, on l'a pas brûlé, il a appris avec le titulaire, et puis quand le titulaire est parti, ça a coulé de source.
Sexton, il a quand même pris une dimension énorme. Moi, je me rappelle de ses débuts en équipe d'Irlande où il avait la très lourde responsabilité d'être annoncé comme le successeur de Monsieur Ronan O'Gara, qui était quand même c'était quand même quelqu'un. Il y a eu 2-3 accros, 2-3 patinages, 2-3 matchs où Sexton bafouillait son rugby, où O'Gara rentrait et donnait une leçon et se disait c'est pas possible, le petit il tiendra jamais. Il pourra jamais passer derrière O'Gara, et bah voilà, maintenant je crois que c'est fait, hein.
Ah oui,
chapeau à lui parce que c'est pas évident, quoi.
Je ne sais pas si vous vous rappelez une finale de Coupe d'Europe où son équipe du Leinster était complètement archi-bouffée, dominée, et au score à la mi-temps, il y avait peut-être 20 points d'écart, c'était en faveur de Northampton. Et Sexton, à lui tout seul, avait renversé le match en deuxième mi-temps et en 20 minutes avait fait gagner le match, hein, ce qui prouve encore une fois que c'est un super joueur. Hein.
Super joueur. Et cette Irlande, finalement, alors c'est le match était solide, un match avec une intensité énorme, hein, c'est quand on comparait au match de la veille, c'était vraiment le jour et le nuit dans l'engagement, dans la vélocité, je dirais. Et mais c'était pas non plus extrêmement flamboyant, hein, avec un jeu d'attaque. On va pas dire non plus que l'Irlande, voilà, joue les exters tout le temps, mais il nous fait rêver, mais on sent que quand même c'est un rugby, ils maîtrisent leur sujet, ils savent pourquoi ils font les choses, et
ils sont en confiance aussi.
Ils sont en confiance et ils vont au bout. Voilà, il sait pas. On va faire des passes parce que je le sens. Non, on sait quand il faut jouer au pied, on sait quand il faut faire des passes, on sait quand il faut garder et jouer au près. On sait que c'est pas, il n'y a pas de hasard, quoi.
Simple, efficace avec intelligence, voilà.
Mais malgré ça, même s'ils sont sur la route du Grand Chelem, c'est pas fait puisqu'ils ont un calendrier difficile. Samedi 14 mars, ils vont au Pays de Galles. Et ils finissent en Écosse, à l'Irlande. Donc deux déplacements
ouais,
même si pour moi ils sont au-dessus, c'est pas fait, quoi. Ludo.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Hein. Je voyais l'Irlande vainqueur du tournoi. Je mise encore sur eux, mais Ganchem va être dur. Ils vont en perdre au moins un des deux. Le Pays de Galles, c'est costaud à domicile. Ouais. Et puis l'Écosse, qui me déçoit quand même.
Parce c'est la surprise que, pour finir à partir rugby. Surprise, défaite contre l'Italie.
Mais bon, c'est pas. Ouais, c'était surprise. Ils perdent chez eux. Je les voyais meilleurs que ça. Ils baissent de pied physiquement à chaque fois, mais ils vont vouloir toujours embêter un petit peu les voisins irlandais. Donc attention, l'Irlande, c'est pas fait. Victoire finale, mais pas de grand chelem, je pense.
Ah, donc ça veut dire que l'Écosse battrait l'Irlande sur le dernier match.
Pégal, ouais.
Avant, parce que l'Écosse s'en va vers la cuillère de bois avec Angleterre-Écosse au prochain match et Écosse-Irlande au dernier match. Ça va être compliqué pour l'Écosse. Et la France jouera à la 4e ou 5e place face à l'Italie. Le dimanche 15h mars à Rome.
Exactement, et puis comme on va finir la partie rugby, on va quand même dire un petit coup de chapeau aux filles, elles peuvent faire le grand chelem, elles ont gagné le Pays de Galles 28-7, c'était vendredi soir, et je sais pas si vous avez vu le match, mais c'est un super jeu, fluideur doublé, des attaques en première main, solide en mêlée, elles attaquent depuis leurs 22 mètres, et elles peuvent faire le grand chelem.
Tout ce qu'on voit pas chez les garçons.
Ouais, exactement, c'est tout le contraire. Ouais, plus de l'envie, des sourires,
non, génial. C'est pas le même sport.
On peut pas comparer, mais bon, elles gagnent, elles sont en route pour le grand chelem. On va les féliciter, on va les encourager jusqu'au bout, et surtout qu'elles vont en jouer les deux derniers du classement, à savoir l'Italie et bizarrement l'Angleterre. Vous voyez, l'Angleterre est assez forte chez les hommes et chez les filles, c'est nettement moins bon. Hein. Donc, allez les Bleus du 15 de France féminin.
Et en parlant de ça, il y a Saint-André aussi qui a parlé des U20. Des U20 qui ont fait le grand chelem l'année dernière et qui a dit que c'est très bien, mais qui a critiqué un petit peu le top 14. Mais ça, je trouve qu'il a raison. Ça fait longtemps qu'on le dit dans l'émission où les jeunes français, avec l'arrivée des étrangers, c'est un petit ce qui est arrivé à l'équipe nationale anglaise en foot. Du coup, les jeunes français jouent beaucoup moins. Il y a que 3 joueurs qui ont fait le grand chelem qui ont un petit peu de temps de jeu en top 14, mais et encore quoi. Donc c'est vrai que c'est compliqué quoi. C'est compliqué. Oui, dis-moi.
Ouais. Bon, c'est comme tous les entraîneurs, hein, il prêche pour sa paroisse, parce que quand il était entraîneur de Toulon, les joueurs du centre de formation de Toulon, il les mettait jamais sur le pré, il prenait les Anglais, les Sud-Africains, etc.
Exactement. Il prêche pour sa paroisse, mais à un moment donné, il a une fédération au-dessus et une ligue nationale de rugby qui doivent se poser aussi les bonnes questions.
Et qui pourrait imposer des règlements top 14 pour protéger un peu ces jeunes joueurs.
Mais exactement. C'est un autre débat. On l'a déjà fait plusieurs fois et je pense qu'on aura le temps de le remettre sur la table.
C'est lamentable que quand il y a une équipe de France qui va pas bien, qu'on n'ait pas envie de trouver de solution ou de changer vraiment des choses. C'est quand même lamentable.
Parce que c'est pas depuis hier que ça va pas, quoi.
On est obligé d'aller jusqu'à la Coupe du Monde, de vivre la Coupe du Monde et après ça changera, mais ça moi je trouve ça insupportable.
Qu'est-ce qui changera? Le coach va changer, mais derrière justement toutes les problématiques qu'on commence à évoquer avec Yves, toutes ces problématiques de jeunes joueurs, de choses comme ça, est-ce que ça va réellement changer? Je pense pas.
Je sais pas. On va prendre une grosse claque en Coupe du Monde.
À moins voilà, de s'arrêter au premier tour. Ce qui est possible.
On a des générations de joueurs moyens.
Ludo, il est catégorique, lui.
Ah oui, on passe pas le problème. Enfin, si ça continue comme ça, à moins d'une opération commando des joueurs qui se prennent en main tout seuls et qui laissent le coach de côté, on passe pas le premier tour de la Coupe du Monde. Il y a l'Irlande et puis l'Italie qui vont être remontées comme des coucous pour nous sortir du premier tour de la Coupe du Monde. Ça va être hyper, hyper dur. Hein.
Hyper compliqué. Allez, sur ces bonnes paroles, on dit au revoir à Ludo et on se retrouve dans 2 minutes après la pub. Ne quittez pas.
Salut.
Au revoir, salut, bonne fin d'émission à vous, ciao.
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 Moi, mon nom c'est Smokey. La rumeur gronde, tous les gars sont sortis. On sort de l'ombre, faites chauffer les amplis. Pour donner un peu d'air, c'est clair.
Allez, de retour dans Il va y avoir du sport, Yves, la seconde partie, tu vas nous parler de quoi?
La seconde partie, on va démarrer par le choc de Ligue 1, de cette 27e journée, entre nos deux représentants en Champions League, l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain.
Allez, on va accueillir Nico dans quelques instants, mais avant cela, donc, tu m'as dit on parlait de Ligue 1, c'est ça?
Et c'est ça, on parle de Ligue 1, oui.
Mais les esclaves et les cons qui n'auront pas su dire non. Nous on veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Et il avait,
ça colle.
Et là, il a raison, Bertrand Cantat, il n'y a pas de gagnant.
Gagnant-perdant, c'est pas. Ça, la Ligue 1.
Un bon petit match, un bon petit 0-0 pour le choc de cette 27e journée entre Monaco.
Non, mais c'est bien parce que le lundi, on travaille, donc il faut se coucher tôt le dimanche. Il fallait un truc pour s'endormir, impeccable.
Exactement, on avait préparé le programme avant, on s'est dit, on va parler du choc, hein, on va regarder le match, on va débattre.
Parce,
et
que,
puis,
parce que le dimanche soir, il y a zone interdite, mais zone interdite, par contre, c'est aussi sur les terrains de foot, parce qu'il y a des endroits où ils n'ont pas le droit d'aller, tu vois, les buts,
les
là,
buts, ouais, non, faut pas ça.
Cages, défilés, bon.
Et on accueille Nico, on est sévère, Nico, ou quoi?
Salut à tous, bonsoir, messieurs. On est sévère, on
n'a encore rien dit.
Non, on est sévère, c'est-à-dire qu'il y a un énorme contraste, c'est la semaine européenne de la Ligue des Champions et cet exploit incroyable de Monaco en Angleterre du côté d'Arsenal. Et puis il y a ce match terrible, parce que certes on peut critiquer le match, mais les Parisiens sont critiquables, mais à mon avis à un moindre niveau, ils ont tenté des coups et ils auraient dû s'imposer. Mais Monaco propose tellement peu et nous affiche à chaque match de Monaco cette saison, chaque gros match, c'est toujours la même chose et c'est d'un ennui profond.
Attention, tu vas te faire critiquer par Jardim.
Oui.
Attention, il va vouloir une autre réponse, on va être obligé de l'inviter dans l'émission.
Dugarry a pété un câble hier devant le match, mais c'était drôle parce qu'on pétait un peu tous comme lui à sa place, donc c'était assez incroyable.
Bah, il n'y a pas de patron dans le championnat, et puis à chaque fois qu'il y en a, il y a une autre équipe qui peut profiter, bah, finalement ça donne rien.
Là, ça a été les 4 en tête. Hein.
Tout le week-end, ouais, j'ai entendu patron. Ah, mais il y a Machin qui a perdu, donc Machin va en profiter, et puis le lendemain, bah, finalement, ah, bah, lui aussi il a perdu, Machin va en profiter. Bon, finalement, personne n'en profite, tout le monde se moque, il n'y a pas de patron. Personne n'a envie d'être champion.
Bah, façon,
donc à la fin, ça sera Paris.
Dans les équipes du, on va dire, du haut de classement, on va dire, les seuls qui ont gagné, c'est Montpellier. C'est tout. Tous les autres, c'est défaite.
Haut de classement, c'est vite dit.
Quand tu regardes au niveau des, je parle des gens qui vont se battre pour les places européennes, et quand tu regardes Montpellier au niveau des points, bah ils sont dans le paquet avec Monaco, Saint-Etienne, Montpellier, donc Bordeaux, et les seuls.
Ils étaient septième.
Entre le groupe vraiment des trois de tête et derrière, donc c'est cinq équipes qui vont se battre pour les places européennes. Les seuls à avoir gagné, c'est Montpellier. Tout le reste, c'est défaite ou match nul.
Nico.
Oui, et puis en tout cas c'est clair, le championnat est clair, on a trois équipes en tête qui vont se battre, mais même quand on regarde le match du PSG hier soir et quand on regarde leur récente prestation, il y a un gros manque de réalisme, mais quand même il y a un socle important, il y a beaucoup de choses à redire, hein, sur cette équipe du PSG, mais malgré tout, à mon avis, elle se détache de plus en plus, ouais, de Lyon et Marseille qui peinent là depuis quelques semaines, mais depuis un moment, et je trouve que cette équipe parisienne prend de plus en plus d'écart, alors peut-être pas au niveau comptable, mais en termes de jeu, je sens quand même s'étirer un petit écart entre le PSG et les deux autres équipes.
Je suis d'accord avec toi, et moi d'ailleurs je pense qu'hier, avec Zlatan Ibrahimovic devant, il en aurait bien claqué une. Par rapport à Cavani, il avait dit, et même Pastore, il en aurait claqué une. Je pense qu'avec Ibra, les trois, Paris, à mon avis, aurait remporté les trois points.
Marseille et Lyon, je pense qu'au bout d'un moment, l'effectif un peu limité de ces deux équipes.
Ça manque un peu de profondeur.
Et il reste 11 journées, hein, c'est long. Long 11 journées, et à mon avis, en 5-6 journées, le PSG, en accélérant un petit peu, en enchaînant 3-4 victoires d'affilée, va pouvoir faire un trou. Alors certes, il y aura du suspense jusqu'au bout.
Oui, mais attention à la Champions League, on sait ce que c'est. Paris, à tout moment, on peut passer face à Chelsea. Ça va user, ça va leur faire perdre des points. On sait comment ça se passe. Mais le problème, c'est que les autres n'arrivent pas à enchaîner, quoi. Autant ils enchaînaient en début de saison, Lyon et surtout Marseille. Mais là, eux, ils enchaînent pas. Donc même si Paris perd des points, Lyon et Marseille, on les voit mal faire, sans parler de sans faute, une belle fin de championnat avec, sur les 11 matchs qui restent, genre 8 victoires, quoi. On les voit mal faire ça, quoi.
Après, faut se méfier. Il y a des équipes qui renaissent arrivées mi-mars, début avril. Il y a des équipes qui renaissent avec le printemps. C'est notamment une spécialité traditionnelle de Saint-Etienne, entre autres, de faire un hiver pourri et de finir les 5-6 dernier match en trombe.
Oui, mais là, mais Marseille, je les vois pas. Et Lyon, quoi. Et Lyon, ça m'étonnerait, Nico.
Lyon, encore moins, je pense.
Ouais. Non, Nico.
Non, mais je vois mal ces deux équipes se rebeller complètement. Et déjà, à Lyon, on voit déjà que la combe commence à critiquer certains joueurs. Marseille, quelques polémiques ressortent entre Gignac et Bielsa. On se dit que Bielsa enchaînera pas une seconde saison. Il commence à y avoir quelques petits bruits dans les coulisses. C'est peut-être pas hyper bon signe pour la suite. Après, faut quand même se féliciter en Ligue 1. Les trois équipes les plus joueuses sont en tête. C'est plutôt pas mal. Quand on va à Monaco 4e, vu le jeu qu'ils produisent,
Il faut se méfier parce que le classement est en trompe-l'œil. Monaco est pas si loin que ça pour le podium puisqu'ils ont un match de moins. Ouais. C'est contre Montpellier qui est en pleine bourre, mais il suffit qu'ils le gagnent. Ils se retrouvent à 3 points de Marseille. Hein.
3 points de Rennes. Alors moi,
ce
je...
qui va être...
vas-y.
Ouais, allez-y.
Vas-y.
Non, non, ce qui va être intéressant, bon, c'est trois équipes en tête. Pour le podium, ça risque d'être fait. La lutte européenne risque d'être pas mal, hein, pour la quatrième place, parce que je pense que Monaco, Saint-Etienne, Montpellier et Bordeaux se tiennent complètement en termes comptables et même en termes de niveau de jeu. Alors, c'est pas les plus fantastiques du moment, hein, c'est pas un jeu exceptionnel.
Mais c'est solide, globalement.
Ce jeu à quatre équipes, il peut être intéressant pour la suite.
Alors, sachant que je pense que Saint-Etienne sent quand même un peu le truc lui échapper, il y a eu quelques déclarations de Galtier, notamment cette semaine, qui fixe l'objectif du club sur la Coupe de France davantage que sur le championnat pour la fin de saison, là.
Alors là, on est passé très vite, hein, sur ce Monaco PSG. Moi, je voudrais y revenir un petit peu parce que, justement, pour mettre en parallèle, ben, ces deux équipes par rapport aux performances qu'elles ont réalisées en Champions League, quoi. Alors pour le Paris Saint-Germain, effectivement, là, ils jouent à l'extérieur, on sent qu'ils ont, ben, ils ont quand même dominé le sujet hier. Alors, en se livrant beaucoup même qu'Arsenal, je pense que c'est grâce à ça qu'ils ont réussi à faire match nul. Enfin, moi, du côté du Paris Saint-Germain, un joueur que j'adore, de toute façon, qui amène tout, c'est Pastore, quoi. Pour moi, c'est celui qui a survolé un petit peu ce match. Et il était à deux doigts d'ailleurs même de lui-même d'ouvrir le score, alors que c'est même pas son rôle. Et moi, je le trouve très très bon, quoi. Et je pense qu'à Chelsea, ce serait une bonne idée de le faire jouer parce que je le trouve très très bon quand il rentre dernièrement.
Thiago Silva également revient à son meilleur niveau. Il n'a pas fait de faute depuis 7 matchs.
Et il a
une stat juste ouais. énorme.
Et on me signale qu'il n'a pas pleuré depuis 15 jours aussi.
Quel méchant, Nico.
Non, mais je rejoins complètement. C'est Thiago Silva et Marquinhos en défense centrale ouais. sont reviennent à un top niveau. Et ça, c'est important à la fois pour la Ligue des Champions et même pour l'équilibre de l'équipe. C'est très, très intéressant et très important. Verratti. Qu'on le veuille ou non, Verratti ouais. quand même un top joueur qui va malheureusement pas rester longtemps en Ligue 1 tellement il est impressionnant.
Je suis d'accord.
À son âge. Et ensuite, voilà, ensuite il manque Zlatan devant à un très bon niveau. Il manque à Thiago Motta au milieu du terrain parce que c'était lui le régulateur l'année dernière et David Luiz est très très énervant à ce poste de numéro 6.
Ouais, mais
très,
alors très ça énervant. Va être compliqué parce que ouais. si Marquinhos et Silva restent dans l'axe, à mon avis, Blanc n'aura pas les cojones de sortir soit Mota soit David Luiz, donc ça va repartir comme avant. Il va refaire descendre David Luiz, remettre Mota et Marquinhos à droite.
Une autre option, c'est que David Luiz peut prendre un côté. Il l'avait fait à l'époque où il jouait au Portugal. Ouais, encore.
Sortir clairement du jeu, bah, honnêtement, je le dis, non, pas exceptionnel.
Qui ça?
David Luiz.
Ah, il ne sortira jamais.
Il ne sortira jamais.
Pognon, bah, honnêtement,
grosse escroquerie.
Et c'était le même cas de Pastor il y a 2-3 ans. Hein.
C'est vrai.
Pastor ne sortait pas du terrain parce que.
Cette année, il ne sortira pas.
Il avait aussi coûté 40 millions d'euros.
Et là, c'est pas. Et du coup, je pense que voilà, malheureusement, je trouve que du coup, avec tout ce que je. Enfin, Pastore devrait du coup se retrouver encore une fois relégué sur le banc quand ça va rentrer. Et moi, je trouve que c'est justement pour un joueur, pour ouvrir des défenses telles que celles de Chelsea, des défenses fermées, regroupées. Un joueur comme Pastore, avec cette qualité technique et cette facilité de jouer dans des petits périmètres, me semble primordial, quoi.
Je suis pas un grand fan de Pastore, je te l'avoue.
Comparé
à Lavezzi, oui. Comparé à Lavezzi, oui, il y a un peu plus de talent et de qualité technique. Parce que Lavezzi est très gentil, lui aussi, mais face
à des défenses regroupées, Lavezzi,
il lui faut des espaces, à Lavezzi.
Mais il n'est pas au niveau, tout simplement.
Bah, oui.
Lavezzi n'est pas à ce niveau-là. On l'a vu face à Chelsea au match aller, on le voit dans les gros matchs. Lavezzi n'a pas le niveau technique pour ce genre de rencontre. Et, ça fait un moment que je pensais que le PSG allait s'en débarrasser à un moment ou à un autre à un mercato. Mais il est toujours là, il est même titulaire.
Parce qu'il est copain avec Ibra.
Et je sais pas, ouais, peut-être copain avec Ibra. Lucas s'est blessé, faut aussi le signaler, mais pas oui. sur un côté, ça pourrait être très très intéressant. Ouais.
Et même sur un côté, mais même en le faisant, tant pis, on libère un côté, on laisse et Pastore qui va rentrer, il part du côté, mais il rentre un peu libre, quoi, pour organiser ce jeu, pour aller chercher les attaquants et jouer dans les petits périmètres, parce que c'est ce qui arrive à Paris.
Il offre beaucoup de Paris, c'est ça, quoi. Il offre plus de possibilités qu'on avait dit, c'est clair.
On l'a vu contre Chelsea où ils sont cassés les dents avec la défense regroupée de Chelsea. Pastore était blessé et je pense que Pastore, il est rentré 10 dernières minutes. S'il avait joué peut-être la dernière demi-heure, vu comment Paris dominé, je pense qu'il aurait pu faire la différence, mais malheureusement il était blessé, donc on verra bien ce que ça donne d'ici, je crois que c'est 2 semaines, hein, le match retour.
Et du côté de l'AS Monaco, un joueur qui commence à revenir vraiment à un bon niveau, c'est Geoffrey Kondogbia, je trouve, qui au milieu de terrain commence vraiment à s'imposer dans cette équipe de Monaco.
Kondogbia, bon, qui avait été exceptionnel face à Arsenal, parce que on en parle légèrement de ce match-là, mais ouais, quand même le football français a vécu un sacré moment. Alors certes, c'était sur beIN Sport, c'était un petit peu dans l'ombre, mais quel moment, quel ouais, match de Monaco Arsenal, c'était hallucinant cette rencontre.
Ah oui, c'est comme on disait, c'était le on en avait parlé un petit en présentant le match, hein, c'était le match, on le sentait arriver, c'est exactement ce qui s'est passé. Et je me rappelle de Mika qui avait dit encore, oui, ils peuvent marquer un contre, encore faut-il contrer. Et là, Monaco vraiment a fait le match parfait en justement utilisant ses coups à fond, ses contres à fond. Mais la naïveté de cette défense d'Arsenal, enfin, c'était pathétique.
Mais j'ai l'impression qu'Arsenal sont imaginés qu'ils allaient rencontrer une équipe de nationale. C'est
Oui, totalement. Une grosse suffisance dans la préparation d'Arsenal, ça se ressent dès les 15-20 premières minutes, hein, en effet, ouais.
On leur dit Monaco est pas terrible. Alors oui, effectivement, c'est pas des génies du ballon, mais je veux dire, ils sont quand même quatrième de Ligue 1.
Ils sont sortis
premiers de leur poule, voilà, sans être
et
des génies. C'est vrai qu'il y a eu vraiment au niveau de l'état d'esprit un énorme problème du côté d'Arsenal. Là.
Oui, et puis diminuer surtout Monaco. Et c'est quand ils sont arrivés avec le jeune de 18 ans, ouais, sur le côté droit. Ben voilà, beaucoup de changements. Fabinho au milieu de terrain. Et là, Arsenal s'est dit, bon, là, déjà qu'ils sont pas super bons, alors en plus, ça va être facile. Mais bon, malgré tout.
Mais tout leur a souri. Faut quand même le dire.
Oui, voilà.
Le premier but, l'ouverture du score, sur une frappe contrée, ils sont en souffrance dans cette première mi-temps. Et puis Giroud qui vendange occasion sur occasion, ils ont des occasions de partout. Et Subasic qui sort le match de feu. Et voilà, tout a roulé. Enfin, il y a rien eu pour Arsenal, quoi. Donc c'est vrai que ça a été le coup parfait.
Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire logique qu'une erreur de jugement comme celle qu'a fait Arsenal soit sanctionnée. C'est normal. À ce niveau-là, tu peux pas te permettre de l'équipe que t'as en face, elle a quand même passé les poules. Elle est en 8e de la Ligue des Champions. Tu peux pas te permettre de les prendre par-dessus la jambe comme a fait Arsenal. Et je trouve ça normal et très bien que ce genre d'état d'esprit soit sanctionné.
Je suis d'accord. Alors on en parlera beaucoup plus longuement quand on présentera ces matchs retour, comme à notre habitude. Et on va finir cette page football, cette page Ligue 1, par parler un petit peu du fond du classement, hein, fond du classement qui cette année nous est cher à nous Toulousains.
Le fond du fait tout, comme dirait l'autre.
Puisque ça y est, l'équipe, ça fait longtemps qu'on l'annonce, et ça y est, c'est arrivé, l'équipe du TFC est relégable, Nico.
Attends, j'ai pas mis la musique de fête là. Attends, je cherche le truc là.
Non, t'as pas le droit de.
Bon, d'accord.
Relégable.
C'est très très inquiétant. Il y a pas de quoi se réjouir, même si nous on voit venir depuis un moment parce qu'on est des observateurs, à tout près du TFC et qu'on voit ça. Mais depuis des années, on sent que ça dégringole petit à petit en qualité de jeu, que le stade se vide et qu'on s'ennuie de plus en plus. Et malheureusement, ils sont maintenant 18e. Et ils sont marqués dans une galère où ils ont un 50-50, c'est-à-dire là, 11 journées de la fin, il va falloir batailler jusqu'au bout.
Batailler jusqu'au bout, on le rappelle, ils sont 18e. Alors, il y a Metz et Lens qui sont déjà en Ligue 2, hein, clairement avec 22 points. Ouais. Et puis, ça va se jouer entre le TFC 29 points.
Et environ 25 équipes.
Et ensuite, il y a Evian à 29 points, mais avec un match en retard. Ouais, Lorient 31 points aussi, avec un match en retard.
Bah, c'est ces deux-là qui se rencontrent, je crois. C'est Lorient et Lorient.
Exactement. Donc là,
Evian-Lorient, c'est Evian.
Voilà, il y a pas tant que... Attention, parce qu'il y aura pas tant que ça d'équipe. Hein. Moi, je pense que ça risque de faire un trou rapidement.
Ah oui, c'est tout là que les trois là.
Et ouais, parce qu'après déjà c'est Bastia 33 et Bastia descendra pas.
Bastia pourtant en début de saison, fallait parier
Bastia,
cher.
Hein, Bastia-Nice, ça descendra pas parce qu'à domicile.
T'as Reims à la limite qui fait la charnière entre les deux groupes.
Exactement.
On va dire.
Voilà, exactement.
Est-ce que Angers, ils ont combien de points, Yves?
Parce qu'il suffit que Lorient gagne là, il se retrouve à 34 points, 5 points de retard pour le TFC. Il y a un TFC Marseille là vendredi soir. Alors Marseille est pas au top,
non,
certes.
Ça va, ouais, c'est prenable.
Moi je suis inquiet pour cette équipe de Toulouse.
C'est surtout qu'on voit pas quels sont les atouts de Toulouse là actuellement. Il y a aucun atout. L'entraîneur il va pas inventer des choses. Le groupe est-il soudé? On a jamais vu ça. Ben Yedder, à part atteindre la fin de la saison d'aller dans un autre club, et c'est ce qu'il fait depuis le début de l'année. On sait pas trop à quoi il sert. Moi je vois aucun atout du côté de Toulouse.
Alors quand on voit la physionomie du match face à Saint-Etienne, la petite lueur de sport, c'est quand même il y a eu quand même cette révolte. D'ailleurs le TFC égalise sur la fin du match, et voilà, c'est pas une équipe qui, voilà, c'est pas des ils prennent pas des roustes à tous les matchs. dire, il y a, c'est pas loin. C'est surtout psychologiquement. De toute façon, une lutte pour le maintien.
Ce qui a vraiment
joue,
une
joue dans la tête. C'est
voilà, Nico, c'est 50% dans la tête. Et c'est surtout là qu'il faut pas lâcher, quoi.
Ouais, moi je suis. Enfin, oui, faut pas lâcher le TFC. C'est comme le titre de l'équipe. Est-ce que le TFC est-il prêt à jouer la relégation et la lutte pour le maintien? C'est ça surtout. Est-ce que ce groupe est prêt? Il y a pas de leader. On voit Aguilar et Dido sont blessés pour l'instant, mais ça fait peur. Il y a pas de grand leader. Notre gardien échange une fois sur deux. Ben Yedder, donc c'était le grand joueur là de ces dernières années. Apparemment, il fait des matchs catastrophiques. J'ai pas pu voir le match face à Saint-Té, mais il a été apparemment très très moyen.
Ouais.
C'est ça qui est inquiétant. Et en plus, tu l'as décrit, Yves, au niveau comptable, au terme de classement, il y a déjà un petit écart et le TFC va batailler avec une ou deux équipes, mais pas plus.
Pas plus.
Mais après, il faut rappeler aussi qu'ils viennent quand même d'enchaîner. Je prends pas leur défense, mais ils viennent quand même d'enchaîner. Enfin, avec Marseille, ça fera trois rencontres du haut de classement.
Je suis d'accord avec toi.
Un point face à Saint-Etienne et il faut attendre le match de Marseille
et même pour les défendre, je dirais même qu'ils viennent d'enchaîner 27 journées de Ligue 1.
alors il y a
le week-end psychologiquement faut tenir,
ça sera compliqué de toute façon pour Evian et pour Lorient la semaine prochaine, parce que je crois qu'il y a un Evian Monaco et Saint-Etienne-Lorient, donc là à mon avis non plus Evian et Lorient vont pas prendre beaucoup de points. Il serait de bon temps que le TFC fasse un petit résultat face à Marseille, quoi.
Mais il concède vraiment aussi trop de fautes, la faute de Grigor sur le penalty, ça se voit. Je sais pas qu'est-ce qu'il va tacler là, ça se voit vraiment à 100 fois qu'il va faire faute. C'est plein d'imprécisions comme ça qui leur coûtent le match. Voilà,
c'est... Et ça contre Marseille, il faut se méfier parce qu'ils ont 2-3 petits tricoteurs devant Marseille qui vont générer des fautes.
Les Touvain, Batshuayi, c'est vrai que ça.
On en reparlera de cette Ligue 1 parce que là on rentre quand même dans le sprint final.
Ça rentre dans le lure.
Exactement. Allez, pour terminer cette heure sportive, on va finir une fois n'est pas coutume, même si on en parle dernièrement parce que c'est quand même la saison des sports d'hiver, on va parler du championnat du monde de ski nordique. Eh oui, c'était ce week-end, les championnats du monde de ski nordique qui se déroulent. Alors, évidemment, peu d'engouement médiatique, comme d'habitude, sur ce genre de sport. Mais une grande nouvelle, et je pense que c'est grâce à ça plutôt qu'on a parlé de ces championnats du monde, puisque Jason Lamy-Chapuis a annoncé à 28 ans, donc c'est quand même un âge c'est pas un âge canonique pour prendre la retraite sportive, annoncé sa dernière saison sur le circuit.
Oui, parce que dans les sports comme ça, on peut continuer aisément à plus de 30 ans, hein, 33, 34 ans, c'est faisable. Il avait encore une Olympiade dans les jambes, ça, à n'en pas douter. Mais voilà, le garçon estime avoir fait le tour de ce sport où peu auront fait autant finalement, ce sport qu'est le combiné nordique. Finalement, Jason Lamy-Chapuis aura énormément contribué à médiatiser en France, parce que et moi il m'a bien aidé au cours de ses émissions, hein, parce que le combiné nordique tout le monde s'en fichait, mais pendant toutes ces années Jason Lamy-Chapuis, tout le monde s'y est mis, tout le monde connaît.
Exactement.
Et on rappelle que c'est une épreuve de ski de fond et puis une épreuve de saut à ski, et puis bien évidemment quand on fait du ski de fond en général on fait pas de saut à ski et vice versa, donc c'est vraiment une épreuve où il faut avoir un physique extrêmement je dirais intermédiaire, hein, parce que faut avoir les jambes et les grosses cuisses pour faire du fond, mais faut aussi avoir une technique et une aisance dans le saut à ski, et on sait que les gars qui font du saut à ski sont des poids plumes, donc ça va pas ensemble l'un de l'autre, donc c'est vraiment une discipline à part.
Nico.
Ouais, il marque surtout son sport, il marque le bilan français de ces dernières années surtout, hein, parce que dans cette compétition-là et même au JO, au championnat du monde à chaque fois, c'était un des seuls à nous ramener quelque chose, à marquer réellement les esprits sur le plan médiatique. C'était une figure de proue, hein, Jason Lamy-Chapuis, tout comme les Martin Fourcade, pardon. C'était les deux grandes figures du ski, enfin du sport de glace et alpin français. Donc non, c'est quand même à retenir. Bon, le jeune homme à 28 ans s'arrête, il va faire pilote de ligne, hein, donc. Oui, il y a de quoi.
Ouais, il y a de la reconversion. Bah, il sera toujours dans les airs, hein, un petit peu comme pour le saut à ski. Mais je dirais surtout que il a eu du mal à encaisser aussi ces Jeux Olympiques où il était extrêmement attendu, où il pouvait plus se cacher. C'était il y a l'an dernier, je crois, en 2014.
Ouais, 2014 à Sochi,
ouais. Il était même porte-drapeau, il me semble, hein, si ma mémoire est bonne. On rappelle qu'il a été champion olympique en 2010.
Vancouver.
Et que ben là, tout le monde l'a découvert. Et que donc, en 2014, il avait la pression et il n'a pas pu s'imposer. Il a également deux titres mondiaux, trois globes de cristal, 26 victoires en Coupe du Monde, Jason Lamy Chappuis. Mais bon, après ces JO, il s'est dit, bon, tout ça pour ça. Et puis, je pense qu'il n'arrive pas à se remotiver, qu'il estime avoir fait le tour, non? Ben, voilà. J'ai pas trop entendu ses déclarations, mais
c'est ce qu'il dit, c'est
globalement,
ça, c'est...
j'imagine un peu, quoi.
Il allait à l'entraînement avec, ben, à reculons, il faut aller à l'entraînement, il faut, et puis quand on a plus cette niaque et cette plaisir aussi d'aller à l'entraînement, c'est ce qu'il a dit, il préfère tourner la page, et puis finalement, s'il doit être pilote de ligne, il a bien raison. Et en tout cas, surtout, il finit sur une bonne note, puisqu'il finit avec un titre mondial, alors, soit par équipe avec son compère, mais c'est quand même une très bonne note, et il faut dire que ben, c'est lui qui a rapporté la majorité des médailles, alors que ce soit individuelle ou par équipe, hein, de ce combiné nordique, puisque il y a une stat là sur le journal équipe pour pas le citer, c'est 90% des victoires des médailles plutôt en individuel ou par équipe depuis 2009, ben c'est 10 sur 11, c'est pour il y a Lamy Chappuis, donc du coup c'est vrai qu'à part lui il y a plus grand monde derrière, par contre Nico.
Ah, super boulot. Oui, Nico.
Non, il y a plus grand monde et c'est assez hallucinant. Moi, je l'avais vu dans un reportage Intérieur Sport, hein, vous savez, le magazine sur Canal+, et ouais, ils avaient fait un portrait sur lui. Oui, le type est un peu rêveur, un peu en décalage par rapport au sport professionnel et ça m'étonne pas du tout de le voir arrêter à 28 ans après un tel titre et surtout, oui, la désillusion des JO 2014, oui, je pense que ça lui a mis un petit coup, mais non, ça m'étonne pas du tout. Au vu du reportage, ça m'étonne pas du tout de voir arrêter aussitôt.
En tout cas, c'est bien qu'un champion comme lui s'arrête sur un titre.
Sur une bonne note,
ça aurait été dommage.
Vu tout
ce qu'il a amené à son sport, voilà, de terminer sur un échec, de rester sur le goût de est-ce que j'ai fait la saison de trop ou est-ce que j'aurais dû continuer 3 ans pour faire. Enfin, là au moins c'est clair, il termine sur un titre, il part sur une super note et bah on peut juste lui dire bravo champion et merci pour tout, quoi.
Exactement, ben voilà, c'est beau, voilà. C'est comme
on
ça
va chialer.
Voilà, c'est comme ça. Exactement. Allez, on va quand même parler, parce que c'était, il y avait pas que le combiné nordique dans ces championnats du monde de ski, il y avait le ski de fond, oui, aussi, le saut. Et quelle est la nation qui a fini devant? C'est la Norvège avec 20 médailles, donc c'est énorme, parce qu'il y avait 63, mais je crois qu'il y avait 63 médailles de mise en jeu, on va dire. Voilà, mise en jeu, et c'est la Norvège avec 20 médailles, donc 11 d'or qui ça raflait le ski nordique, c'est la Norvège. Donc, et la France qui finit quatrième avec une seule médaille d'or, 2 médailles d'argent et 3 médailles de bronze. Un bon petit résultat pour l'équipe de France. Et maintenant, on va continuer à enchaîner les sports nordiques, puisque je crois qu'il y a le championnat du monde de biathlon qui vont pas tarder à démarrer.
Oui, ça s'enchaîne, ça va se terminer.
C'est le dernier d'ailleurs.
Et c'est le dernier, mais en même temps, il est temps. Bon, avec toute la neige qu'on a dans les Pyrénées, c'est un peu étrange de dire ça, mais là,
biathlon,
on est quand même au mois de mars. Là, hein.
Voilà, et puis là, l'équipe de France va aller chercher les médailles.
Non, ben, non. On l'espère. Après, c'est oui, logiquement, oui. En tout cas, il se cache
plus
pas.
Plus qu'en alpin ou plus qu'en ski nordique. Allez.
Logiquement, oui.
Voilà.
On en parlera, je pense, dans les prochaines semaines. Et puis, il y a le Formule 1 qui arrive, Yves, aussi. Ça n'a rien à voir, mais
ça n'a rien à voir.
Mais ça arrive aussi. J'ai vu ça, là, parce qu'ils n'arrêtent pas de faire des essais, là. Alonso, c'était viandé aussi, j'ai vu.
Exactement. Ah, ça va arriver. Les saisons recommencent. Allez, on va terminer l'émission par nos coups de gueule, nos coups de mou du week-end. Ben, les extra time, Nico. Allez, les extra time. Alors, qu'est-ce qui nous a marqué ce week-end de sport? Quelles ont été les images fortes? Ben, alors, qui c'est qui? Ben, Nico, alors, à l'autre bout de la France, qui va se lancer?
Ah, ben, je vous ai entendu parler de rugby tout à l'heure dans les premières 20 minutes.
Ça te démange?
Ça me démange, non, j'ai entendu surtout sur l'actualité. Il y a une autre actualité rugby en ce moment, c'est la sortie d'un livre, hein, dans 3 jours, le 5 mars, d'un livre à charge sur le rugby, sur le dopage dans le rugby. Qui a fait beaucoup de bruit en coulisses et qu'on essaye de limiter au maximum l'impact de ce livre sur le rugby français. Mais un livre intéressant à mon avis à lire, j'ai déjà lu quelques extraits, c'est du piquant à l'intérieur. Pierre Balestier qui avait déjà fait c'est l'auteur, hein, de ce livre, qui avait déjà, ouais, fait une enquête sur le cyclisme et qui et qui a bien préparé son sujet sur le rugby.
En tout cas, on en parle beaucoup déjà. Alors, on rappelle, il n'est pas encore sorti, mais j'ai l'impression que le monde du rugby est en émoi, puisque avant l'arrivée de Philippe Saint-André en conférence de presse, juste après le match, c'est Jo Mazo qui est arrivé, et on avait peur d'une, enfin peur entre guillemets, certains auraient été contents, je pense à notre ami Ludo Clermont-Ferrand, d'une terrible annonce, et puis non, il a dit, on sait que vous allez poser des questions sur l'actualité, ça va vous démanger de poser des questions sur le livre qui va paraître sur le dopage, on répondra à rien. Alors qu'on était, enfin je sais pas si quelqu'un pensait à ce moment-là, après une défaite face au Pays de Galles à domicile, poser des questions sur le bouquin. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Nico.
Tu vois tout le déballement là, tous les grands anciens qui prennent la parole, toutes les générations confondues viennent prendre la parole pour démonter le livre.
On est dopé au café, à l'envie, à l'amitié, à la bière.
Saint-André est tellement nul que ça en est risible. Mais il va être intéressant à lire ce livre en tout cas.
Disons que
ça permet d'avoir un autre regard sur ce sport, mais bon. On n'est pas dupes, hein. On se doutait un petit peu de ce qui se passe dans le sport professionnel.
Les réactions font quand même furieusement penser à ce qu'on pouvait entendre de la bouche des cyclistes à la fin des années 90, avant l'affaire Festina et la grosse prise de conscience qu'il y a eu dans le cyclisme. Là, ça fait vraiment penser à ces années-là, quoi. Tout le monde ne peut pas, en toute objectivité, croire qu'il n'y a pas un truc pourri là-dessous, mais non, on continue à dire sans trembler des genoux que tout va bien, que c'est faux, qu'il n'y a pas un pet de dopage, quoi. Il faudra de toute façon dans ce sport-là, dans tous les sports d'ailleurs, que chaque sport ait son affaire Festina pour que ça claque, quoi. Parce qu'il faut un électrochoc pour que ça change. Sinon, les gens ont aucun intérêt à ce que ça sorte.
Je suis d'accord avec toi, Aymeric. Alors, Aymeric, puisque tu es lancé, t'as laissé le time.
Après un week-end comme celui qu'on a eu, je peux pas parler de fait marquant autre que le Grand Prix de Montastruc. Encore une fois, un énorme coup de cœur. C'est une super course. Encore du mouvement. Encore une course super intéressante à suivre. On est toujours reçu comme des rois là-bas. Donc ouais, on s'est encore une fois régalé, hein. C'est pas Nico qui va me contredire. De toute façon. Non, Nico.
On peut pas réagir.
Non.
Ouais, non, mais là, voilà. De toute façon, là, on fait 4 heures.
Qui est entre Paris-Roubaix et Tour des Flandres, ouais, maintenant pour nous.
C'est ça. De toute façon, on peut pas faire 4 heures de direct sur une course si on s'éclate pas à le faire.
Non, mais après, on a du mal à s'en remettre, hein, notre grand âge quand même. Là.
Ça vieillit tout ça.
Ouais. En tout cas, ils en parlent. Je pense qu'il y aura une grosse page Radio Vélo qui sera.
Ouais, ouais. Et puis il y avait plein d'autres courses. Et puis il y avait notamment les premières classiques belges. Et puis on a vu l'un des faits marquants au vélo, c'est aussi l'équipe Etix Quickstep. Là, vous savez, l'équipe de Boonen, la légendaire. Et ben là, ils ont été battus par un coureur de la Sky, la Stannard. Ils étaient 3 contre lui dans le final. Ils ont réussi à perdre. Ça promet quand même des belles classiques. Je pense qu'on va bien rigoler. Aurélien, il en a même. Extra time.
Bah, oui, moi je vais vous parler de la légende Roger Federer, oui. qui a remporté encore une fois le tournoi de Dubaï et qui a claqué une nouvelle fois un record avec plus de 9000 aces. Il rentre 4e au classement des personnes ayant dépassé 9000 aces. Il se trouve à, il me semble, un peu moins de 80 aces de la 3e place tenue par Andy Roddick. Et voilà, à 33 ans, encore une fois, une prestation juste énorme. Il a maîtrisé un Novak Djokovic de bout en bout. Et voilà, une performance de très haut niveau. Et je pense qu'il va encore nous régaler quelques années.
Ça c'est sûr. On a encore pour un petit moment. Alors ce sera pas autant de victoires qu'avant, puisque là j'arrive, mais sur les coups, sur les grands tournois, je pense qu'il est encore, il va être encore présent.
Il est tellement classe quand il joue, c'est vraiment un plaisir à voir jouer.
Allez, Nico.
Ouais. Non, l'extra thème, j'ai du mal à vous en donner. Ouais, c'est vrai que j'ai été un petit peu omnibulé par le vélo également. J'ai suivi le foot, mais c'est vrai que ma semaine d'extra time, c'est quand même cette victoire de Monaco que tout le monde a commenté à milieu de semaine. C'est vrai que c'était un sacré extra time. Ça me fait plaisir. En plus, contre Arsenal, moi, c'est surtout ça qui me plaît, je crois.
Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un club français à pareille fête en huitième de finale.
Ouais, mais ça me rappelle le, ça nous rappelle un peu le Monaco de il y a 15 ans, là, mais.
De Deschamps qui a fait leur
bon,
épopée.
C'est pas pareil, c'est moins flamboyant parce que vraiment, le Deschamps, là, c'était quoi, en 2004, je crois.
2004.
C'était extraordinaire et puis on avait vraiment vibré.
Il y avait quand même Juli, Roten, Morientes, enfin, je veux
dire. Ouais, et puis c'était Arsenal, quoi. C'était le Real, c'était Chelsea.
Cette saison-là, Monaco, disons que voilà, là, Monaco a fait, cette année, Monaco a fait un exploit. Alors que lors de leur épopée avec Deschamps, Monaco avait réellement l'une des deux meilleures équipes d'Europe.
Oui.
Point.
Exactement. Je suis d'accord. Mais on leur souhaite quand même d'aller aussi loin à cette Monaco
aussi,
de Jardim.
Aussi loin, ce sera compliqué, mais déjà concrétiser en gardant leur score, passer les huitièmes. Et puis après, on ne sait pas, suivant le tirage en quart.
On ne sait jamais.
Ça n'ira pas en finale, mais ouais, c'est déjà joli, quoi.
On ne sait jamais ce qui peut arriver. En tout cas, ça serait du coup, maintenant, il y a un petit peu de pression quand même, parce que ce serait quand même une grosse déception.
Si on tombe sur un FC Bâle, FC Porto, c'est possible de
faire un peu plus.
Il faut quand même encore se qualifier.
Ouais, c'est vrai.
Allez, ben moi je vais clôturer avec. Alors j'hésite et je vais encore parler de ski, puisqu'il y a quand même une grosse sensation. Alors pas par la victoire, parce que c'est Marcel, c'est Hirscher, donc
qui gagne.
Mais là, il a quand même gagné avec 3 secondes 28 centièmes d'avance sur le deuxième. Donc je sais pas si on se rend compte de ce que c'est un écart de 3 secondes 28 sur le deuxième. C'est monstrueux.
C'est beaucoup.
C'est le quatrième plus gros écart de l'histoire de la Coupe du Monde.
Ah oui, non, c'est énorme. Dans un sport où les écarts se jouent au dixième, voire au centième, pour départager les meilleurs, là, c'est la claque. Hein.
Et voilà, comme quoi, on peut être très très bon toute l'année et gagner toutes les épreuves de Coupe du Monde et ne pas être champion du monde comme ça lui est arrivé cette année, alors qu'il survole la compétition.
Ah, exactement. Hirscher, qui est un des très grands champions du ski moderne. Voilà, on a fait le tour, je crois.
On a fait le tour et on va se quitter. Mais juste nous, parce qu'il y a Radio Vélo qui arrive, Nico.
Ouais, exactement, Radio Vélo, spécial Grand Prix de Montastruc. On va refaire un petit peu cette course. On va également avoir Samuel Dumoulin. Même Nico, tu le connais, Samuel Dumoulin.
Bien sûr.
D'AG2R à la mondiale, qui a gagné une des classiques qu'il y avait ce week-end. Donc, restez bien connectés dans Radio Vélo qui arrive eh bien dans quelques instants.
Salut à tous.
Ciao. Salut à tous.
Ciao, ciao.
Gronde, tous les gars sont sortis. On sort de l'ombre, faites chauffer les amplis pour donner un peu d'air. C'est clair, la route est longue à ce qu'on dit. Pour plaire au monde et à n'importe qui, on sort les flashs pour n'importe qui.